Encore une fois pour la dernière fois. C'est la formule parfaite de l'adieu. Elle dit l'adieu, mais elle le repousse aussi. Elle le reconnaît, c'est comme si elle en avait tout de suite horreur et le différait. Mais elle le célèbre. Elle le fait durer. Pour la dernière fois, oui, dit-elle, mais encore une fois, bon Dieu. Je sais bien que ceci n'a pas le moindre intérêt pour la compagnie. Mais cela a par contre beaucoup à faire avec mon rapport et avec toute cette histoire que maintenant, faute de mieux et faute de pire à la vérité, je crois pouvoir conclure. Je sais également que ce que je vous dirai n'apportera guère d'aide, même si... En somme, la direction décidera ensuite des mesures à prendre, quand elle trouvera bon, comme elle trouvera bon de le faire. Donc, la situation du bateau est actuellement telle que le bateau n'existe plus, même si à l'instant même je me trouve sur le pont de commandement, disons entre la barre et la table à cartes. Je vais m'expliquer. Ainsi vous comprendrez, et peut-être, qui sait, vous commencerez aussi à vous faire une idée du caractère de Pépé Usodimar. Du reste, c'est bien lui que nous avons cherché jusqu'ici autour du monde, et c'est peut-être lui que quelqu'un d'autre, après moi, continuera à chercher. La décision est entre vos mains. Il semble que cela ait été un désir venant de lui. Oui, que le bateau soit démoli en laissant en dernier le pont de commandement. Exactement le contraire de ce qu'on fait habituellement ici, à Chittagong. Ces ouvriers du Bangladesh sont dans un tel état de misère que d'habitude, le pont de commandement, avec ses objets de prix, disons ainsi, est pris d'assaut tout de suite. Par les premiers, ceux qui sont encore suffisamment robustes pour arriver à bord en montant à mains et pieds nus le long des chaînes et des ancres. Mais cette fois-ci, cela n'a pas dû se passer ainsi. Ils ont fait comme il le demandait, lui, cela est sûr. Une des rares choses sûres dans cette histoire, de souvenirs payants et d'hypothèses passionnées. Ils ont démoli tout le bateau en commençant par la proue, cloison après cloison, pont après pont, cale après cale. Puis ils ont fait le tour du château arrière et de la poupe, ils sont repartis pour arriver de nouveau au château. C'est ainsi que je suis aujourd'hui en haut d'une espèce de tour haute de 30 mètres plantée dans le sable pourri de Chittagong, comme un gigantesque clou de la croix. On y arrive par une échelle de pilote, mais multipliée par 20. Une peine terrible avec cette chaleur, l'air ici et de l'eau. À travers les vitres encore intactes, je vois une forêt de fer, des cheminées sans chaufferie, des antennes, des grues, des proues sans bateau, des hélices sans poupe. Le soir, l'endroit où je me trouve est le seul objet de la côte qui est encore une lumière allumée, le seul encore vivant. De loin, ça doit sembler le plus horrible, ou peut-être le plus idiot. Même de nuit, même à cette hauteur, la puanteur est insupportable. Mais ceci, comme je le disais, c'est le point d'arrivée, ou du moins le point où moi, je suis arrivé. Tout le dernier acte commence il y a presque un an, lorsque Pépé Usodimar reçoit à Cuba le message suivant. Où que tu sois, ouvre bien tes oreilles, capitaine. Aujourd'hui arrive sur le registre de navigation de la ville incurvée l'avis que le cargo Baya Inutile a été mis aux enchères et vendu pratiquement comme de la ferraille. C'est la compagnie bolivienne Sur qui le vend, avec pour répondant la financière Transea, qui a son siège à Zurich. Ce sont les aciéries Indy de Bombay qui l'achètent. Maintenant, le Baya Inutile est amarré dans le port d'Aden. Il sera démoli à Chittagong. Il lèvera l'ancre dès que le capitaine local trouvera un commandant pour cette belle mission, chose pour laquelle, comme tu peux l'imaginer, les gens ne se pressent pas au portillon. La nouvelle a quand même 3 semaines. L'équipage a été racolé sur place, et tu peux donc imaginer ce que ça peut être. Ce sont 16 hommes qui viennent de partout. Disons que dans leurs papiers, et ils n'en ont pas tous, on ne voit jamais le nom d'aucune localité de ce premier monde tant décrié. croix apparaissent comme étant sans domicile fixe, mais qu'est-ce que ça veut dire, à Aden. Je sais que tu es maintenant le roi de la marine de croisière dans les Caraïbes, mais je te dis ça malgré tout, parce que je me suis souvenu qu'une nuit vraiment arrosée dans les ruelles de Sotoripa, tu t'étais donné du mal pour coucher avec moi et ensuite j'ai tout oublié. Sauf l'histoire du baïa inutile, qui était tombé au beau milieu de tes émouvantes élucubrations comme une météorite d'authenticité, qui t'avait surpris, toi aussi, si je me souviens bien. Romantique, moi ? C'est possible. Mais je te rappelle que j'ai un passé d'entomologiste. J'aime les papillons, et c'est pour ça que je les tue, et que je suis la plus grande experte de leur psychologie instable. J'espère que tu n'as pas changé d'adresse mail et que ce message va te parvenir. J'aimerais savoir comment ça va se terminer. Je pourrais le savoir ? Salut. Femme marine, tu te souviens ? Femme marine est un personnage défini mais secondaire dans cette dernière phase de la vie connue de Pépé Usodimar. Pour moi, au contraire, c'est-à-dire pour nous, elle est plutôt importante. Le message de femme marine s'imprime dans le sommeil d'un vieux portable qu'Usodimar doit avoir acheté il y a une quinzaine d'années de cela à Taïwan, quand c'était un prodige de technologie. Maintenant, il est pratiquement obsolète. Mais Usodimar l'a utilisé pendant tout ce temps pour rester en contact avec le monde et, par chance pour nous, également comme journal de bord et comme journal intime. C'est par ces fichiers que nous savons comment Usodimar est rentré ce soir-là dans le froid irréel de sa chambre d'hôtel à La Havane. On comprend à le lire que ça a dû être une soirée vide, un peu trop communiste. Usodimar tourne pendant presque une heure dans un coco-taxi, conduit par une petite jeune sympathique mais épouvantablement poilue. Il longe entre autres le Muséo de la Révolution et il s'attarde à regarder de l'extérieur le Grand Mât, le bateau sur lequel Castro et ses compagnons sont arrivés sur l'île en faisant naufrage. Il est à l'intérieur d'une énorme vitrine, toujours éclairée par une lumière de laboratoire. Il lui apparaît comme un gigantesque fœtus marin plongé dans l'oubli du formol, et pas seulement dans cet oubli-là. Usodimar se fait déposer dans une calée, qu'il connaît bien, et tandis qu'il rentre à pied à l'hôtel, il pense au bon sens de la Révolution qui a changé en Calier de los Hermanos, l'ancien nom de Calier Amargura. Une fois à l'hôtel, Usodimar ouvre les pailles taïwanaises, comme tous les soirs. Il répond tout de suite à femme marine en lui disant que, comme le nom qu'elle s'est choisi, elle est très romantique, que lui aussi se rappelle les murmures de Sotoripa et que de toute façon elle a raison pour ce voyage du baïa inutile, c'est lui qui sera le capitaine. Il faut que ce soit lui. Il promet d'être à Aden dans les 24 heures. En attendant que femme marine s'emploie à ralentir tout ce qu'elle peut ralentir, qu'elle fasse donc sentir le parfum des dollars aux fonctionnaires arabes. La nuit même, Usodimar trouve un vol, ou plutôt une série de vols, qui, en un rapide tour du monde, devrait l'amener jusqu'à Aden avec 5 heures de retard sur la promesse faite à femme marine. Et très précisément, j'ai retrouvé dans le portable toutes les réservations, La Havane, Moscou, Francfort, Sofia, Athènes, Beyrouth, Le Caire, Abidjan, Aden. Il a 6 heures pour se reposer. Il faut qu'il dorme et il dort. Il se réveille avant l'aube. Quand il quitte l'hôtel, notera-t-il alors qu'il est déjà dans l'avion, ses yeux tombent sur une jeune femme qui attend à l'angle de la rue. Elle a une robe très courte, très étroite, très voyante. Ginetera, pense Usodimar, violette, triste et noire. Il monte dans le taxi et essaie de dormir encore jusqu'à l'aéroport. De décollage en décollage, les avions que doit prendre Usodimar sont des appareils de plus en plus vieux, des Antonov de plus en plus souvent. Il écrit qu'il a l'impression de passer imperceptiblement de la main des pilotes à celle de Dieu. Les boissons augmentent, les vibrations aussi. À Abidjan, le steward qui lui demande s'il veut un peu d'eau a une énorme tache de café sur une veste rose. En tout, Usodimar passe 29 heures dans l'atmosphère irréelle des aéroports. À un moment donné, à Beyrouth peut-être, il mange une assiette de choucroute à l'intérieur d'une fausse improbable brasserie. Il voit l'aube qui était imminente à La Havane seulement au moment où il descend de l'avion à Aden. Il sait que ça ne peut pas être la même aube, mais il n'arrive pas à s'en persuader. Il n'a pas touché sa montre, mais il est sûr qu'elle est à l'heure exacte. À Aden aussi, on peut boire l'air. Quand il arrive à la capitainerie du port, un fonctionnaire tropical lui communique à l'intérieur d'un bâillement interminable que le baïa inutile a levé l'ancre depuis 5 heures. « Ne vous inquiétez pas, lui dit-il, pour aller là où il doit aller, il peut le faire rien qu'avec les gens qui sont dessus. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un comme vous. » Les choses ne se présentent pas comme ça, note Usodimar dans son journal. Ce n'est pas le baïa inutile qui a besoin de moi, c'est moi qui ai besoin de lui. Il demande un téléphone et appelle en Angleterre notre compagnie. Chez nous, quelqu'un lui répond et lui passe quelqu'un d'autre. À son tour, Usodimar passe l'écouteur au fonctionnaire, lequel se met debout, écoute et peu après dit que, bien entendu, il n'y a pas de problème. Il s'adresse ensuite à Usodimar comme s'il reprenait une conversation interrompue et lui dit que, naturellement, il est possible de gagner le bateau avec l'hélicoptère de l'armée, qu'il est stupide de ne pas y avoir pensé plus tôt. Il faut seulement remplir le réservoir, car on vient juste de l'utiliser pour transporter à l'hôpital de la ville un caporal des puits de pétrole de l'intérieur gravement blessé en remettant de l'ordre parmi les ouvriers. Il dit tout cela sans reprendre son souffle, sans pause. Il y aura peut-être encore du sang, dit-il en souriant. Et toujours en souriant, il ajoute qu'Usodimar devra peut-être descendre en vol parce que, bien évidemment, le baïa inutile n'a pas de piste d'atterrissage. Sans doute, à ce moment-là, s'attend-il à une réponse négative. Mais Usodimar ne peut plus désormais revenir en arrière. Il dit que ça va. Et il pense à bien des années auparavant, quand il avait dû, devant le port de la Valette, passer d'un pilotin à un bateau de croisière avec une mer de force 7. Il se dit que ce ne sera pas très différent, même si maintenant c'est lui-même qu'il sent différent. 2 heures plus tard, il monte dans l'hélicoptère. Il peine à tenir les yeux ouverts. Au moment où il veut boucler la ceinture de sécurité, elle lui reste dans les mains. Le soldat qui est assis en face de lui jure son bon Dieu à lui, dans une langue incompréhensible, et dit, dans un anglais exotique, qu'il va devoir rester en service plus longtemps pour la réparer. Ensuite, il passe une ceinture élastique sous le siège, la lui noue autour de la taille et dit « c'est mieux qu'avant », avec un sourire où manque une incisive et une canine. Usodimar écrira qu'ensuite, à partir de ce moment-là, il essaie de ne plus être sur cet hélicoptère, de se transporter ailleurs. Au bout 1h15 de vol, ils sont au-dessus du sillage du baïa inutile. En bas, le vaisseau oscille sur une houle longue. L'hélicoptère vire au-dessus du pont, puis fait du surplace en synchronisant sa vitesse avec celle du bateau. D'abord, c'est le sac d'Usodimar qui arrive et finit parmi les amarres de proue. Ensuite, de manière moins énergique, c'est lui, accroché au filin. Au dernier mètre, le treuil de l'hélicoptère semble s'enrayer et le filin glisse tout droit sans ralentir. Usodimar tombe sur le pont à 1 mètre de l'écoutille principale qui est grande ou ouverte. Il se décroche tout de suite et l'hélicoptère se cabre, reste en arrière comme s'il était coincé dans l'air. Usodimar se remet debout avec une cheville qui brûle et lui fait mal. Elle est foulée, mais il fait comme si de rien n'était. « Fermez ça, bon sang, » dit-il. Puis, il dit au premier venu, au hasard, de suivre le cap, qu'il doit se retirer dans sa cabine pour lire certains documents des armateurs. Dans sa cabine, il se met à trembler et le tremblement ne cesse pas pendant plusieurs minutes. Puis, alternativement, il met son cou et sa cheville dans le lavabo sous un jet d'eau froide. Le soir, il n'est pas encore sorti. Voici ce qu'il écrit sur son portable 8 heures après être tombé sur le baïa inutile. Encore une fois, pour la dernière fois, ce bateau est à moi. Il sera à moi de manière ininterrompue pendant 20 000 milles. Des milles très lents, à en juger par le bruit des machines. Je déciderai du cap, même s'il est inévitable, et des quarts, même s'ils sont obligatoires. Et surtout, je déciderai de la manœuvre finale, qu'il me faudra par contre improviser car elle n'existe pas même sur les manuels. Aucune personne de ma connaissance n'a jamais échoué un bateau aussi gros. Et pourtant ça se fait. Il y a des dizaines de pilotes qui le font dans le monde. Si la houle est longue, il faudra chercher la caresse des vagues. Si la mer est grosse, il faudra attendre, peut-être une semaine entière, comme si on était en rade. Mais si tout va bien, la mer sera plate et il faudra alors seulement respirer avec la marée. On verra. Si un homme ici, entre-temps, décidait de mourir, il m'incombera de l'accompagner avec les dernières paroles jusque dans l'océan, même s'il n'y a pas de paroles faites pour tout le monde. Si un homme veut se marier, c'est moi qui devrais célébrer le mariage, même si je ne crois pas que cette fois-ci il y ait des femmes à bord. Nous n'avons même pas de fret, ce qui est naturel vu notre destination. Nous flottons haut sur l'océan, léger, trop léger. 15 000 tonneaux de vide en équilibre et en danger à fleur d'eau. Aujourd'hui, la mer est longue et lente. À la fin, le bateau sera à eux, mais ce ne sera plus un bateau. Ils vont le dévorer comme des fourmis pleines de rouille, sous les pluies incessantes de leur pays, du plus profond de leur désespoir. Mais ils n'auront dans leurs mains blessées qu'une montagne de fer, une baleine mécanique, une onde magnétique, plus un bateau. Une œuvre vive qui, avec les années, comme moi, comme nous tous, devient un catalogue de tremblements et de vices, avec ce rythme bien reconnaissable que les religions nomment âme. Mais il y a encore le temps de chercher, de trouver. Et puis, tout peut mal tourner, comme ce bateau, avec ce bateau. Il est curieux de voir comment, à partir d'un certain moment, on ne fait plus qu'avancer en reculant.